Les poupées de musique noire.
Joe Farmer.
It don't mean a thing.
Nathalie Laporte.
If it ain't got that swing.
Jigida, kani jigi misenya, omani, kobena.
Les poupées de musique noire.
It's okay. You know, it's okay.
Oh, merci.
C'est une émission ouverte sur le monde que nous allons vous proposer aujourd'hui. Notre invité est un chanteur belge né à Bruxelles il y a 60 ans. Il fut autrefois batteur. Il a d'ailleurs accompagné quelques grandes figures de l'épopée des musiques noires. Il a été l'ami du grand poète et romancier afro-américain James Baldwin. Il a fait paraître des albums dont l'intention universaliste est manifeste. Le dernier en date s'appelle Real Men Cry. Nous sommes enchantés d'accueillir David Links. Soyez le bienvenu.
Merci beaucoup.
Disons-le, vous êtes très bien entouré pour ce nouveau disque. Vous avez sollicité Arnaud Dolmen à la batterie, Grégory Privat au piano, Hermon Mehari à la trompette et Chris Jennings à la contrebasse. En d'autres mots, une équipe afro-américano-caribéenne. C'est votre multiculturalisme qui vous a poussé à convier ces brillants instrumentistes en studio ?
Peut-être par billet, mais c'est simplement parce que t'es de superbes musiciens et je joue avec de superbes musiciens. Donc ça fait 8 ans qu'on joue ensemble, que c'est mon groupe, et entre-temps ils ont développé chacun une carrière magnifique. Donc il reste, je suis encore un des seuls avec qui continue à jouer et c'est magnifique. Je suis gâté à tous les niveaux avec eux.
Quand on a à ses côtés de tels virtuoses, que recherche-t-on, l'excellence ou le challenge ?
Ben, l'excellence, je crois que c'est une démarche qui fait partie de la mission qu'on a dans une vie. L'excellence dans le moment, ça dépend ce qu'on comprend par le mot excellence, mais surtout la cohésion, la magie, chemistry.
Est-ce que les racines culturelles des musiciens qui vous accompagnent ont une importance pour vous ?
Oui et non. Moi, j'ai eu mon parrain, c'est Nathan Davis, le saxophoniste, donc il m'amenait beaucoup en tournée avec lui quand il venait en été, quand il jouait avec Donald Byrd ou avec tous ces gens-là, Odin Pope, Max Roach. Et puis, c'est comme ça que je suis atterri chez Kenny Clarke à Paris, chez qui j'ai habité un moment.
Immense batteur.
Oui, donc j'ai grandi dans cette culture. C'est une culture qui ne m'a jamais demandé d'essayer d'être noir. Il n'y a rien de pire qu'un blanc qui s'imagine qu'il y a une formule pour essayer d'être noir et d'être cool. Donc, ils m'ont juste exigé d'être un homme. J'ai toujours tendance à dire que j'étais élevé par une culture qui attendait de moi que je sois un homme.
Je vous posais cette question car vous avez souvent été en contact avec le monde noir afro-planétaire, dirais-je. Pourquoi, selon vous ?
Je ne sais pas. Mon père était le fondateur du festival de jazz à Anvers, Jazz Midland. C'est lui qui est notamment responsable, co-responsable pour l'association entre Ram Blake et Jean Lee, qui habitait à la maison quand j'étais petit. Donc, il y avait des sculpteurs, des chorégraphes, des écrivains, beaucoup d'alcool, cigarettes à l'époque. Et moi, j'étais parmi eux. Et je jouais avec mes voitures ou quelque chose. Et il me racontait qu'il faisait rire ses amis. Il mettait le disque de Miles Davis, Sketches of Spain. Et quand Miles commençait à jouer, je me mettais debout en tant que 3-4 ans. Je me tenais figé, je ne bougeais plus.
Happé par la musique.
Et dès qu'il enlevait le disque, je me rasseyais, je continuais à jouer.
C'est étonnant.
Donc il y a Miles, que j'ai rencontré d'ailleurs chez James Baldwin à Saint-Paul-de-Vence, mais aussi à New York. dans le bar où le frère de Baldwin, chez qui j'habitais à New York, était le manager, Michael's Jazz Club, 97e rue, entre Amsterdam et Broadway. Et puis Ray Charles, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, une fois au Crest Jazz Festival, où je jouais le lendemain, j'arrivais la veille. Et mon père avait un enregistrement pirate de Juan Lepin 61, où il chantait très très lentement à l'orgue, mais un tempo extrêmement lent. L'orgue, batterie, flûte, Georgia My Mind. Et ça, c'est une des plus belles versions.
La liste des artistes avec lesquels vous avez collaboré est époustouflante. Harry Sweets Edison, Johnny Griffin, Clark Terry, Sly Dompton, le Count Basie Orchestra, Roy Ayers, Oumu Sangaré, Gonzalo Rubalcaba, Claude Nougaro, ouais. Ray Lema, Steve Coleman, etc., etc. On m'a même dit donc que vous aviez croisé la route d'Ella Fitzgerald, mais j'aimerais en savoir plus.
Là où j'ai le plus travaillé, je crois, la voix, parce qu'Ella, si tu veux savoir comment chanter un morceau, un standard, tu n'as qu'à écouter Ella. Surtout le disque d'Ella Fitzgerald 77 à Montreux avec Tommy Flanagan Trio. Oui. Donc je connaissais ça par cœur à l'envers. Et on habitait un peu en dehors de Bruxelles. Ella allait venir chanter à la Grand Place à Bruxelles. Donc moi j'ai dit à mon père, je vais y aller, je vais la rencontrer. Ils ont rigolé un peu. J'ai pris le train, j'avais 14 ans. Et j'ai défrayé la sécurité et j'ai couru jusque dans sa loge. La sécurité m'a couru derrière. Elle a dit non, non, laisse-la s'asseoir. Donc j'ai passé du temps dans sa loge avec elle. C'était un moment magique. Et depuis, j'ai fait la Grand Place au moins 15 fois. Donc, je raconte cette histoire au public chaque fois que je monte sur scène. Et dans Jazz Magazine, pour les 100 ans d'Ella, j'ai écrit cette histoire. Et en sortant de sa loge, en rentrant à la maison, elle m'a donné un bisou. Il y a les fruits toujours dans les loges. Elle avait beaucoup de parfums. J'avais une pêche. La pêche était inondée de son parfum. Et puis, j'avais une autographe sur un papier. Et je suis rentré à la maison et j'ai fait sentir la pêche à tout le monde. Et puis, c'était incroyable parce qu'une pêche, on ne peut pas garder ça. Donc, j'ai mangé la pêche. Et en quelque sorte, c'est là où j'ai digéré, avalé l'influence d'Ella totalement pour pouvoir passer à autre chose. Donc, c'est un acte très, très symbolique, en fait.
Ella Fitzgerald est en vous, en quelque sorte.
Oui.
Et puis, il y a la rencontre avec James Baldwin. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'importance de ce personnage dans la culture afro-américaine?
Pas seulement la culture afro-américaine, c'était le premier à transcender toutes les cultures. Le fait de, à 12 ans, tombé sur un livre en flamand dans la bibliothèque de mon père. La couverture du livre était un verre glacé, donc ça brillait un peu. C'était assez haut, j'ai dû prendre une chaise pour prendre le livre. Et c'était « Goat Island on the Mountain » en flamand. Le fait que d'être universel, de toucher tout le monde avec une histoire qui se passe à Harlem, c'est tout, ça montre la force et la transcendance de James Baldwin. Donc c'était au-delà de la couleur, mais pas en disant que la couleur n'existe pas, au contraire, parce que c'est le luxe des Blancs de dire que la couleur n'existe pas. Récemment, j'étais à Amsterdam avec la famille Baldwin, d'ailleurs, les neveux qui sont venus, on est toujours très très proches. Ils ont fait une pièce de théâtre de Giovanni's Room. Et pour Baldwin, ça c'est le livre le plus important qu'il a écrit. Parce que c'est à ce moment-là qu'il devient écrivain et pas écrivain afro-américain.
C'est un activiste, James Baldwin.
Il n'aimait pas trop ce mot-là. C'est un écrivain dans tous les sens du terme. Un activiste, ça nous limite à une rage. Angela Davis a beaucoup souffert de ça. On la limite à ça. Et quand on lit les livres d'Angela Davis, on ne peut pas se rendre compte à quel point c'est une énorme écrivaine. Mais ce moment dans l'histoire qu'elle a passé l'a limité à cette image-là. Et que les gens qui adorent Angela Davis ont souvent même pas lu ce livre.
Vous avez eu le privilège de passer du temps donc avec James Baldwin à la fin de sa vie et vous avez conçu un disque ensemble, A Lover's Question, dont nous allons écouter un extrait immédiatement.
Oh.
My country, it is of thee I sing. Known, unknown, past, present, or perhaps above all to come.
I sing my dear, my darling.
Columbia, the gem of the ocean.
Or as I a street nigga would put it.
Okay, I'm your nigga, baby, till I get bigger.
You are my heart.
A Lover's Question Part 1, le titre éponyme de votre album enregistré avec James Baldwin en 1986. Avec le recul, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir écrit un chapitre éminent de la lutte du peuple noir en concevant ce disque avec une figure essentielle de l'histoire afro-américaine ou de l'histoire américaine en général ?
Je ne pense pas aussi loin et je ne me permettrai jamais ça. Je trouve que c'est magnifique d'avoir eu l'audace un soir en asseyant sur sa terrasse avec, il faut voir Saint-Paul-de-Vence, les criquets, les étoiles, on voit la Méditerranée très très loin, on voit Nice briller en bas de la vallée. J'essayais de boire comme lui, je buvais un grand whisky et puis j'étais assez saoul et puis j'ai dit faisons un disque et il a dit oui. Et sur ce, le lendemain, je suis revenu à la charge et croyais que j'avais oublié. Ah, ok. Puis il est venu avec le livre qui était publié chez Actes Sud, Jimmy's Blues. Et moi, ça c'est vraiment, quand on est jeune, l'audace de la jeunesse, j'avais 19 ans, 20 ans. Et je lui disais, non, je veux du matériel pas publié. Il m'a regardé un peu, ah bon? Donc il a trouvé A Lover's Question, Part 1, Part 2, Inventory on Being 52, Part 1, Part 2, Part 3. Et là, ça a été une aventure, peut-être une des aventures les plus logique de ma vie. Il n'y a pas d'obstacle sur le chemin de ce disque. Ça a été, il faut que les auditeurs et auditrices jeunes se rendent compte qu'on n'avait pas Internet qu'on avait pas, et que c'était incroyable. Tout le monde a dit oui tout de suite.
Sur votre dernier album, Real Men Cry, vous évoquez James Baldwin à travers le titre You'll Always Be Tomorrow. Ce personnage ne vous quittera jamais.
Ah, c'était tellement un homme rempli d'amour envers tout le monde. Je veux dire, on a envie à nouveau de le limiter à cet homme coléreux, fâché sur les blancs, mais pas du tout. Il disait souvent, si tu crois que je suis fâché sur ça, c'est parce que tu es fâché sur toi-même. Ça, c'est ton problème. Quand les blancs lui demandaient, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Rien, fais-le pour vous. Pas pour moi, I'm okay.
Sur l'album Be My Guest en 2021, vous aviez convié son neveu Trevor Baldwin à lire une lettre de son oncle James Baldwin. Que disait cette lettre ?
En fait, oui, c'est Trevor. J'avais demandé d'écrire quelque chose et il n'a pas pu écrire. Donc, il est venu avec cette lettre. C'est une lettre que Baldwin a écrite à Trevor quand il est né, mais avec 3 ou 6 mois de retard. Et dans la lettre, il s'excuse d'être en retard. Mais, mon cher Trevor, si tu veux faire partie de la famille, tu vas devoir accepter le retard parce qu'on est toute la famille est toujours en retard. Et tu ne peux pas prendre ça personnel.
Et il dit une chose très juste, James Baldwin, dans cette lettre. Il dit « Être en retard suscite l'attente ».
C'est magnifique.
Revenons à 2025. Écoutons votre révérence à James Baldwin. You'll always be tomorrow.
Thank you.
tomorrow, you know I can rely on honeymoon. Never too soon will I run for some shade.
You'll Always Be Tomorrow, le délicat clin d'œil de David Lynx à son ami James Baldwin, extrait de l'album Real Men Cry. Est-ce que les musiciens qui vous accompagnent sur cet album sont curieux de votre histoire avec James Baldwin et avec tous ceux que vous avez côtoyés? Est-ce que vous en parliez durant les sessions d'enregistrement?
Ils sont très discrets par rapport à ça. Ils sont extrêmement respectueux. Ils ne vont pas venir avec des questions. C'est les situations quand on mange ou quand ça sort.
Il faut que ça soit quelque chose de spontané.
C'est pas seulement spontané, je sens un... Ça c'est le luxe d'avoir 60 ans. Je sens un énorme respect des gens de l'autre génération et je comprends. Déjà je comprenais avant, mais je comprends quand tu as des gens comme Miles ou Betty Carter ou Art Blakey qui travaillent toujours avec des jeunes, des gens plus jeunes. Ça te donne un solide coup de pied au cul aussi, parce que tu restes rythmiquement très alerte, tu fonctionnes rythmiquement dans l'époque dans laquelle tu vis. Parce que je trouve que la nostalgie c'est le pire ennemi de l'artiste. Pas en tant qu'auditeur, je peux retourner au disque Kind of Blue, Sketches of Spain, Dinah Washington, mais en tant que démarche, je veux dire, je trouve que le jazz vocal aujourd'hui qu'on montre officiellement est tellement inoffensif. Comment est-ce que je peux écouter une parole politique d'une jeune chanteuse de jazz qui sonne comme Sarah Vaughan en 55? Moi j'écoute la parole politique de Sarah Vaughan et la façon dont elle chante Misty. Voilà, et je ressens et je l'entends et je trouve que le fait d'avoir habité chez Kenny Clarke, qui est connu pour avoir inventé la batterie bebop, James Baldwin, ça m'a donné une colonne vertébrale pour ne pas tomber dans la facilité et d'essayer de reproduire ce qui a déjà été fait.
L'une de vos grandes amies, c'est l'organiste Rhoda Scott, que vous avez accueilli sur votre album Rock My Boat en 2011. Comment est née cette camaraderie?
J'étais convié pour parrainer le festival de jazz de Dinan en 2007, en Belgique. Et la conférence de presse, il y a toujours une conférence de presse pour dévoiler la programmation. Donc on a fait un concert, une conférence de presse. Et j'avais jamais joué avec Rhoda Scott. C'était avec Toots, Tielemans, Rhoda Scott, Dre Palamas et moi. Donc il y a une telle magie qui émane de cette femme. Quand elle fait un accord, c'est pas nécessairement un voicing spécial. Elle met cet accord. Il y a un truc qui émane d'elle. Qui, je veux dire, c'est un ange. C'est quelque chose de mystique. Et en plein concert, pendant que je faisais le solo, et tout s'est dit, tu savais que c'était comme ça? J'ai dit, non, je... parce que lui aussi, il sentait cette espèce de magie. Et puis, j'ai décidé à ce moment-là de... Je voulais rendre hommage à Rhoda. J'ai convié Nguyen Le, j'ai convié Paolo Fresu, Roland Cruny a fait des arrangements pour cuivre. J'ai fait un duo avec Lénine, le chanteur brésilien. Et je ne savais même pas si le disque allait sortir. Ce n'est pas nécessairement mon disque, c'est une étude sur Rhoda Scott en fait. La magie avec elle, c'est tout le temps là quoi.
Elle était en tout cas enchantée de participer à votre album de 2011, c'est... Rock My Boat. D'ailleurs, écoutez. Oh.
C'est un très bon souvenir. David m'a fait jouer des trucs que je ne jouais pas, le style que je ne jouais pas. Et il a une approche assez complexe pour moi. Et puis j'ai dit, tu veux que je joue avec toi? Il dit, si, ça va être formidable. Et puis j'ai appris les morceaux et tout ça. C'était merveilleux. On s'est rencontrés en Belgique avec Toots Tielemans et on a fait des buffs mémorables. Et puis on a eu une attirance tout de suite. Il y a une connexion entre nous, même avec le buff. Et en plus, le buff ne pardonne pas. On ne sait pas ce qu'on va jouer. Et chacun lance un titre. Et puis on joue. Et puis ça allait. Parce que ça pourrait aller ou ça peut ne pas aller. On jouait toutes venait avec son harmonica. C'était formidable. Moi, je suis très sensible aux voix. Même des voix parlées. Ça me résonne ou ça ne me résonne pas. Il y a des voix parlées qui ne me disent rien. Mais aussi, vraiment, les chanteurs... Quand David a chanté, ça m'a très émue. Et puis, en plus, ses phrases sont incroyables. On est obligé d'ouvrir les yeux et dire « Wow, c'est un grand talent ». Il est très profond, David. Et quand il chante, il est tellement heureux de chanter, on le sent. En même temps, on se demande comment est-ce qu'il fait pour faire autant de choses avec sa voix. Sur le CD que j'ai fait avec David, nous avions le neveu de James Baldwin qui est venu pour faire un texte qui s'appelle « Yesteryear ». C'est drôle parce que il est américain comme moi et il a dit une chose. Je dis, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que ça veut dire, Yamin? C'est un mot, je ne connaissais pas, Yamin. Alors ça veut dire, en argot, en langue des quartiers, ça veut dire, you know what I mean, c'est un raccourci, Yamin, bro.
Précisons, David Links, que vous participez au dernier album en date de Rhoda Scott, Ladies and Gentlemen, sur deux titres, Childhood et A Quiet Place. Comme nous avons déjà diffusé A Quiet Place dans cette émission, je vous propose de découvrir votre version presque reggae de Childhood avec Rhoda Scott et le Lady Quartet. Childhood, David Links et Rhoda Scott que nous avons pu applaudir le 7 février 2025 au Théâtre du Châtelet à Paris. David Links, il y aurait tant à dire sur votre épopée que vous reviendrez nous voir ici à RFI car nous aurions pu évoquer Miles Davis, Gregory Porter, Kenny Clarke, Nathalie Dessay, Caetano Veloso, Mino Sinelu, etc., etc. Il se trouve que vous fêtez ce mois-ci votre 60e anniversaire et forcément votre parcours ne cesse de s'enrichir. D'ailleurs, comment abordez-vous ce cap de la soixantaine ?
Avec grand étonnement. J'ai aucun problème physique, donc je me sens en même forme que quand j'avais 19 ans. Il y a très peu de changements physiques, en fait.
Vous avez évolué dans votre esprit, forcément ?
J'espère. J'espère. Mais comme on a dit hors antenne, l'évolution est toujours un peu décourageante parce qu'on voudrait que la vitesse de l'évolution s'accélère un peu. Et l'évolution a besoin de beaucoup de temps.
Vous êtes plus sage et serein qu'autrefois ?
Dans certains domaines, j'essaye. Il faut garder en vie l'enfant qu'on est. Et Baldwin, c'était toujours cet enfant-là, malgré toute cette sagesse. C'était cet enfant qui joue avec une grande concentration avec sa voiture et qui ne voit pas le monde autour de lui. Il est tellement concentré. Et j'ai pu être dans la même pièce quand il écrivait. Je le taquinais d'ailleurs toujours. J'allais le chatouiller. Ça. Mais cette concentration dans sa façon de penser, mais quand il était à l'action, de s'isoler de tout pour pouvoir être extrêmement précis et pertinent.
Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir gagné en confiance à 60 ans ?
La confiance est un allié. C'est l'outil qu'il faut laisser dans les loges quand on monte sur scène, mais qui est très très bien quand on écrit ou quand on compose. J'ai toujours été fasciné par les gens qui ont tellement de confiance en eux. C'est en général les politiciens ou des gens comme ça. Il n'y a pas de déjeuner plus long qu'avec quelqu'un qui a confiance en lui. C'est une demi-heure semble être une journée. Non, la confiance, ça se négocie tout le temps. Qui a parlé de ça ? L'expérience ne donne pas confiance, non. Je crois que la démarche, tous les jours construire un peu, aide à garder la confiance en vie. Mais c'est un travail de chaque jour. Oui, comme je dis, c'est un allié.
En tout cas, vous soufflerez vos 60 bougies sur votre gâteau d'anniversaire le 27 mars au studio de l'Ermitage à Paris. Est-ce que vous aurez quelques invités surprises pour l'occasion ?
Sur scène ?
Oui.
J'ai mon groupe. Ça, c'est mes invités qui me surprennent chaque jour. Non, je crois que les invités, ça vient avec les festivals et tout ça. J'ai un grand festival pour mon 60e anniversaire à Dinan, en Belgique, où j'ai plein d'invités. Grégoire Marais.
Grand harmoniciste.
Paolo Fresu.
Trompettiste.
Etc.
En tout cas, nous serons là le 27 mars au studio de l'Ermitage.
Super.
À Paris.
Merci.
Je vous propose de nous quitter avec un titre qui vous ressemble bien. It ain't over till it's done. Ce qui veut dire, ce n'est pas terminé tant que ce n'est pas fini. Une très belle mélodie extraite de Real Men Cry.
I have seen an empty face. I have touched the softest lace. Been in the eye of the storm. I've learned when and who was wrong. It took lifetimes to find you, but we're not over till we're through. You can hold it in a song, 'cause it ain't over till it's done. I still run the fastest race. I never leave any trace. What I reap is what I sow. From that place I shoot my bow. There between heaven and hell, where I finally broke my shell. You can hold it in a song, but it ain't over till it's done.
Merveilleuse mélodie, It Ain't Over Till It's Done, David Lynx en 2025 sur l'album Real Men Cry. Merci beaucoup David Lynx d'avoir passé ce moment avec nous et félicitations pour ce très bel album.
Merci beaucoup et merci à vous de m'inviter.
Merci à Nathalie Laporte pour la réalisation délicate et attentive en régie finale. La semaine prochaine, nous accueillerons Jupiter Bokunji, le leader du groupe congolais Jupiter Anokwes, qui nous présentera Ekoya, son nouvel album à quelques jours d'un concert très attendu au festival Banlieue Bleue en région parisienne. La 42e édition de ce rendez-vous printanier accueillera également, d'ici le 11 avril, le saxophoniste Joey Homicile ou la chanteuse Mamani Keita. D'autres recommandations avant de se quitter, le légendaire groupe de reggae Steel Pulse fêtera son cinquantenaire le 28 mars à l'Olympia. Et le même jour, un hommage vibrant sera rendu à Wayne Shorter à l'auditorium de la scène musicale sur l'île Seguin près de Paris, en présence de Ravi Coltrane, le fils de John Coltrane. Les Parisiens n'auront que l'embarras du choix. Vous savez tout, passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.